Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de notre rendez-vous Fenêtre sur Festival. Je ne vais pas paraphraser tout ce qui est écrit sur l'écran. Et donc, on reçoit, et c'est devenu une très bonne habitude, une plaisante habitude, de recevoir les rencontres du cinéma documentaire de Périphérie, qui se déroule à Montreuil. Et je crois qu'il y a une petite erreur sur la date. C'est le 30 novembre au 6 décembre prochain. Hein, voilà. Bon. Mais donc, vous avez aussi les dates. Et l'intitulé, il était deux fois. Un très bel intitulé que Corinne va peut-être nous expliquer tout à l'heure. Et donc cette année, je crois que l'année dernière, on avait fait un épilogue. Et là, on fait un prologue en trois actes, donc avec Mr. Landsbergis de Sergei Losnitsa, qui, comme vous le constatez, n'est pas là pour l'instant, mais il sera là à l'issue de la projection pour échanger avec vous. Demain, une masterclass de Sergei Losnitsa, montage et remontage de l'histoire, qui portera donc sur sa filmographie maintenant très importante, de cinéma de remontage ou de réemploi, et puis à 17h demain, Paris 1900 de Nicole Védresse. Et on a le plaisir d'accueillir la déléguée générale des rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, Corinne Bopp, que je vous demande d'accueillir. Et Corinne va peut-être nous parler de l'intitulé de cette année. Il était deux fois, qui est à la fois poétique et un peu mystérieux, mais finalement très précis.
Tu me fais un peu rougir, Arnaud, merci infiniment. C'est vraiment un très grand plaisir. C'est... Oh là, ça résonne très très fort. Oui. Hein. Ça va ? C'est très très fort. Ouais. Que ces séances qu'on organise ensemble, donc nous programmons ensemble de concerts avec des films dont on a très envie. Et qui rentre merveilleusement bien dans la thématique de cette année des rencontres. Il était deux fois, ça veut dire que l'on utilise à nouveau des images photographiques, cinématographiques de tous ordres ou des textes et qu'on les inclut dans un nouveau récit ou qu'on les travaille différemment comme le fait Losnitsa dans son film. Donc il était deux fois, voilà, il était deux fois des choses qui ont été tournées, qui ont été pensées pour un projet et qui sont reprises dans un autre projet. Voilà le pourquoi de il était deux fois. Et c'est sûr que c'est très important de que Losnitsa fasse partie de cette thématique, parce que son travail est extrêmement riche dans ce genre, dans cette forme. Et puis en plus c'est extraordinaire parce que là il a des nouveaux films passionnants et qu'il rencontre l'actualité d'une manière percutante, et donc c'est sûr que ça c'est extraordinaire. Et puis il y a Paris 1900, et Paris 1900, film culte dont tout le monde parle et que peu ont vu parce qu'il est rarement montré, et qui sera accompagné en plus par l'absolument délicieuse et fort érudite Suzanne Liandra-Guigue. Voilà, que je remercie d'être là. Donc les rencontres, c'est du 30 novembre au 6 décembre au cinéma Le Méliès de Montreuil. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait faux, parce que le 29 novembre, nous montrons au Cinoche de Bagnolet. Il y a des préludes, c'est chouette, il y a des préludes, il y aura des prologues, il y aura des épilogues, enfin bon, voilà, des préludes, des prologues, des épilogues, enfin ça, non, voilà, ça SM, c'est chouette. Et juste, je vais dire ça parce que ce 29 novembre, nous montrons le film Il Varco, qui est un pur chef-d'œuvre, voilà, qui est sorti en salle l'année dernière, si je ne m'abuse. Et puis je vais juste vous dire deux mots. Donc l'invité principal des rencontres du cinéma documentaire au Méliès, ce sera Radou Joudé, voilà, qui viendra, dont nous montrerons l'œuvre documentaire, qui compte trois longs métrages et quelques courts. Et il sera en dialogue avec Susana de Souza Diaz pour sa masterclass. Donc c'est un très beau moment en perspective. Et puis je résiste pas au plaisir de vous dire qu'en fait, nous avions invité et elle viendra, Annie Ernaux, voilà, avant qu'elle ait son prix Nobel quand même. Hein, parce qu'on l'aime, on l'aime et on l'aimait avant ça.
Ça, c'est de la programmation.
On est juste trop contents. Voilà. Henri Colomer sera avec nous également. Alain Gomis. Enfin, il y a vraiment un plateau de choix. De très, très beaux films. France Souprenant. Le dernier film de France Souprenant, qui est une merveille aussi. Voilà, donc vous êtes très chaleureusement invités à venir à Montreuil début décembre. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et concret. Le film n'a pas d'entracte. Hein, nous nous sommes dit qu'il fallait en prévenir.
Voilà, le film dure 4 heures et 6 minutes.
Voilà. Il n'y a pas s'il vous faut prendre vos précautions, nous vous laissons la minute nécessaire. Mais peut-être que tous vous aviez prévu et êtes extrêmement... Vous anticipez très très bien les choses. Voilà.
Heureusement, il n'y a pas de temps mort.
Voilà, c'est ça. Nous cherchions aussi des moments où on pouvait vous dire, bon, entre telle minute et telle minute, vous pouvez vous permettre, mais il n'y en a pas, donc mais vous ferez comme vous pourrez. Mais nous, c'est vrai que nous, on n'en a pas vu des temps morts. Hein. Voilà. Peut-être que cette dame suit mon conseil, oui. On va devoir attendre un tout petit peu.
Et dernière chose, enfin, j'espère qu'on n'a pas jeté le trouble, puisque ça met du mouvement. Mais donc, dernière chose, c'était pas une contrainte, mais on remercie également l'ambassade de Lituanie à Paris et son attaché culturel Austės Dansiūtės, voilà, qui a apporté son aide, notamment pour la venue de Sergueï Losnitsa. Voilà. On va lancer la projection, donc effectivement il y a un petit peu de mouvement, on va laisser la petite minute, et puis très bonne projection, et on se retrouve donc
avec Sergueï
Losnitsa, avec le grand plaisir, le grand honneur toujours de le recevoir ici, voilà, puisque nous avions fait sa rétrospective intégrale entre janvier et mars 2020. Voilà. Ouais. Voilà, très bonne projection, et à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Sergueï Losnitsa, pour ce film magnifique.
Merci.
C'est moi qui vais poser la première question, et puis ensuite Arnaud prendra le relais. Et puis, bien sûr, vous êtes invité très cordialement à poser vos propres questions, à faire vos remarques. Nous avons la chance que le réalisateur soit avec nous. C'est toujours un privilège. Sergueï, vous avez rencontré Vytautas Landsbergis il y a quelques années. Vous êtes devenu proche, si j'ai bien lu. Est-ce que c'est cela la principale raison qui vous a donné envie de faire le film? La personnalité exceptionnelle de cet homme?
Ну, это не совсем так. Да, действительно, я встретил необычного человека, но я первые воспоминания мои относятся к 89-му году, к первому съезду народных депутатов. И в фильме есть фрагмент из этого съезда, где вышел такой интеллигентный человек, очень деликатный. И... Не, это будет. Значит, это деликатный человек вышел на сцену и, значит, к кафедре и сказал такие вещи, о которых вообще даже помыслить невозможно было в Советском Союзе по поводу пакта Молотова-Риббентропа и по поводу вообще всей этой ситуации преступной, по поводу оккупации Прибалтики и так далее. Это, конечно, был в какой-то степени шок для очень многих.
En fait, pas exactement, parce que vous savez, les premiers souvenirs que j'ai de M. Landsbergis, c'est 1989, c'est le premier congrès des députés du peuple, où d'ailleurs j'ai mis quelques extraits de ce congrès dans le film, et j'ai vu là quelqu'un d'extrêmement délicat. J'ai vu quelqu'un d'extrêmement délicat qui prenait la parole et qui s'est mis à dire des choses qui étaient impossibles à dire du temps de l'Union soviétique, le pacte Molotov-Ribbentrop, par exemple, ou l'occupation des pays baltes.
Познакомились мы 6 лет назад, и с тех пор, в общем-то... очень сблизились, но дело не в этом. Я имею в виду, фильм, он появился не только по этой причине, а потому что я, в принципе, занимаюсь этой темой. Это, значит, 91 год и вообще вот этот период, 90-е годы, распад Советского Союза. И это одна из картин.
On s'est effectivement rencontré il y a 6 ans, on s'est rapproché, comme vous le disiez, mais le film, je ne l'ai pas fait que pour ça, parce que ce film, c'est, je reviens sur le thème qui m'est cher, c'est 1991, et d'une manière générale, c'est les années 90, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, et c'est un des films que j'ai fait sur cette période-là.
Ну и так получилось, что в 2003 году я первый раз приехал, второй раз приехал в Литву. Первый раз я там был в 82 году, значит, и с тех пор я работаю в Литве с литовскими кинематографистами, и каждый год провожу там довольно много времени.
Et en fait, j'y suis retourné, parce que la première fois que j'étais allé en Lituanie, c'était en 1982, j'y suis retourné pour la deuxième fois en 2003. Et depuis, je vais assez souvent en Lituanie, j'y suis vraiment souvent et je travaille depuis avec des cinéastes lituaniens.
И в каком, 2 года назад появилась такая возможность сделать картину, я предложил, и Виталта сказал, да, конечно, давай сделаем. И мы сделали фильм. Мы делали фильм 1.5 года. Это самый, наверное, долгий фильм для меня. Я делаю обычно фильмы быстро, но это самый длинный фильм.
Et puis il y a 2 ans, j'ai eu la possibilité de faire ce film, donc je suis allé le trouver et je lui ai dit « Est-ce que ça vous dirait ?» Et il m'a dit « Ok ». Et donc en fait, le film m'a pris 1 an et demi pour le faire et c'est le film le plus long qu'il m'ait été demandé, enfin, qui m'a pris le plus de temps à faire.
Et il y a une raison, je l'aime la Litvou. Et c'est une possibilité de reconnaître mon amour à cette pays et à ce peuple.
Puis il y a quand même aussi une autre raison, c'est que j'aime la Lituanie, c'était la possibilité qui m'a été offerte de lui déclarer mon amour.
Je vais poser une deuxième question, puis ensuite on vous aura bien sûr la parole. Alors il y a, pour qui suit votre travail, il y a beaucoup de choses nouvelles dans ce film. Alors, c'est vrai que c'est le film le plus long. Il y a un rapport à la parole aussi qui est différent. Et alors je vais commencer par une question peut-être très précise, mais il y a ici des archives vidéo, des choses qui ont été tournées en vidéo. Dans vos films précédents, vous êtes parti d'archives qui ont été tournées en 16 ou en 30, plutôt en 16 mm, j'imagine, ou en 35 mm, qui étaient muettes, ou en tout cas pour l'essentiel. Et ici, la vidéo, il y avait, j'imagine, une source sonore, une prise de son. Alors, est-ce que ça vous a amené à travailler avec ce son, cette prise de son du matériel vidéo, ou c'est comme d'habitude, ou presque toujours comme d'habitude, une reconstruction sonore ?
Ну, дело в том, что для меня очень важно качество, и вы понимаете, что ВХС и камеры ВХС не дают то качество звука, которое необходимо для кинотеатров. И, конечно, мы работали над звуком, что-то сохранили, но огромное количество звука мы добавили в картину.
Vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est la qualité. Il est évident que la qualité du son sur une VHS, ce n'est pas possible de la transmettre dans une salle de cinéma. Donc, effectivement, on a retravaillé le son. Il y a des choses que j'ai gardées et puis il y a évidemment des choses que j'ai ajoutées.
Et quand je начинаю работать над какой-то темой, то я стараюсь, насколько это возможно, брать как можно больше материала, искать как можно больше материала. И меня поразило, что огромное количество материала было снято на VHS, это VHS-камеры, и у нас было около 1000 часов. 1000 часов. То есть только просмотреть все это колоссальная работа. Но это очень интересно было.
Vous savez, à chaque fois que j'aborde un thème, j'essaie dans le possible de trouver le maximum de ce que j'appelle le matériau, le plus possible d'images. Et là, effectivement, avec toutes ces images qui avaient été tournées sur caméra VHS, je me suis retrouvé avec une quantité d'images absolument énorme, puisqu'on a eu à peu près 1 000 000 d'heures. Et que rien que de regarder ce 1 000 000 d'heures, évidemment, c'était un travail colossal, mais que c'était un travail absolument passionnant.
По той причине, что многие люди имели эти VHS-камеры и снимали практически все, что там происходило вокруг в течение 2-3 лет. Ну, может быть, они снимали дальше, но меня интересовал только этот период. И этот весь материал, он находится на грани сейчас исчезновения. Потому что 20-30 лет это все уже практически там исчезает. И нам пришлось потратить довольно много времени и сил, и возможностей, и программистских возможностей, чтобы вернуть этот материал. И этот фильм существует в 50 кадров в секунду. Он показан в 50 кадров в секунду, чтобы сделать очень богатым изображение.
Vous savez, en fait, beaucoup de gens avaient une caméra VHS et ils tournaient à peu près tout ce qu'ils voyaient. Alors, ils ont tourné essentiellement ce que vous voyez là sur les 2-3 années. Je ne dis pas qu'ils se sont arrêtés après, et peut-être qu'ils ont continué. Moi, c'était cette période-là qui m'intéressait. Et c'était d'autant plus important qu'on est aujourd'hui à la limite de la disparition de ces images-là, parce que voilà, ça ne se garde pas éternellement, c'est entre 20 et 30 ans généralement. Mais donc il a fallu véritablement qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les informaticiens se sont évidemment attelés à la tâche parce que c'est un film qui a été... C'est des images qui passent à 50 images par seconde. Et on a beaucoup travaillé pour enrichir l'image.
Это было специальное решение сделать еще такой формат широкий, потому что он позволяет компрессировать видеоизображение и делать его гораздо более насыщенным, изображение, которое касается прошлого.
Et on a recouru à ce format large aussi parce qu'il permettait aussi de comprimer l'image VHS. Cette compression rend l'image VHS beaucoup plus intense et c'était d'autant plus important pour les images du passé.
Donc, мы работали над этим, чтобы это было качественно.
Et on a fait ça de manière à ce que la qualité soit bonne.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires?
En russe, en français?
Les deux.
Мне очень поразилось на самом деле изображение, которое выдает от Горбачева, потому что в последнее время, когда он умер, у нас пропаганда за то, что он был такой вообще суперпрезидент. И я просто хотела иметь ваши отзывы об этом. Je vais traduire. Donc, j'ai été très surprise de ce que racontait de Gorbatchev. Moi, j'avais oublié que voilà cet épisode, et je m'étonnais. J'aurais aimé avoir son sentiment sur le fait de quand Gorbatchev est mort récemment, de la façon dont on l'a encensé.
Ну, вы знаете, de mortis ubi bene ubi nihil. Nihil. Ну, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Ничего.
Il vaut mieux soit dire du bien des morts, soit ne rien en dire.
Значит, но дело в том, что это, конечно, результат очень хорошей работы советской пропаганды и постсоветской тоже, потому что это было необходимо. Но Горбачев сыграл свою роль, и в общем, тот результат его роли, его действий мы имеем сейчас.
En fait, c'était le résultat évidemment de la propagande soviétique et de la propagande post-soviétique, et c'était indispensable, mais en tout cas, le résultat de ce qu'il a fait, le résultat de son rôle, on l'a aujourd'hui sous les yeux.
Если мы вернемся к событиям в Вильнюсе, он прекрасно знал, что происходит в Вильнюсе. Он ответственен за ту кровь, которая там пролилась. Он не, мое мнение, он не был вправе посылать или не посылать войска, но он покрывал тех людей, которые посылали и не посылали войска.
Pour revenir à ce qui s'est passé à Vilnius, un, il était au courant de ce qui se passait, deux, c'est lui quand même qui porte la responsabilité du sang versé, et trois, et ça c'est mon interprétation, il n'avait pas le droit d'envoyer les régiments là-bas, ou en tout cas de couvrir ceux qui les ont envoyés.
С точки зрения Литвы, он человек, который должен был бы быть допрошен как соучастник преступления.
En ce qui concerne la Lituanie, il aurait dû passer à l'interrogatoire sur justement ce qui s'était passé en Lituanie.
Дальше можно много говорить.
On peut parler de ça longtemps.
Но, значит, таких преступлений было много. Это был Баку, был, значит, Тбилиси и так далее. Это все было Горбачевское время, и он ответственен за всю эту кровь.
Et des crimes, ils ont été nombreux, ces crimes-là, il y en a eu à Bakou, Tbilissi, et Mikhail Gorbatchev est responsable de tout ce sang versé.
Et je voudrais me rappeler un tel moment. Le fait est que quand il y a eu les premiers élections présidentielles de Russie, Gorbatchev a aussi balloté. Vous savez combien il a pris? 5%.
Je voudrais également vous rappeler que lorsqu'il y a eu les premières élections, Gorbatchev s'est retrouvé en ballotage. Et vous savez combien il avait eu de voix ? 5%.
То есть без этой машины пропаганды, в принципе, не знаю, Горбачев, Путин, все остальные, они никто.
Ce que je veux dire par là, c'est que sans cette énorme machine de la propagande, que ce soit Gorbatchev ou Poutine, ces gens-là ne sont personne.
Est-ce qu'il y a... Oui.
Oui, si j'ai bien compris, Landsbergis signe son accord d'indépendance avec Eltsine. Quelle est la situation à l'époque ? Pourquoi il signe avec Eltsine et pas avec Gorbatchev ? Eltsine représentait-il l'Union soviétique ou la Russie avait déjà, s'était déjà autonomisée ou indépendantisée vis-à-vis de l'Union soviétique ?
Значит, ну, дело в том, что это вопрос политической борьбы. В то время Ельцину было выгодно, он боролся с Горбачевым за власть, и ему было выгодно, чтобы Россию кто-то признал, и чтобы Россия кого-то признала взамен.
En fait, c'était une question de lutte politique. À l'époque, effectivement, Yeltsin et Gorbatchev se livraient à une lutte de pouvoir. Il était important pour Yeltsin que la Russie indépendante soit également reconnue.
Значит, после того, как Советский Союз распался, разговор был уже другой.
Après l'effondrement de l'Union soviétique, la discussion a évidemment été complètement différente.
Это вопрос взаимной политической выгоды. Для Литвы было очень важно, что Россия признала ее с момента восстановления независимости Литвы.
Et effectivement, c'était une des questions qu'il fallait résoudre de manière avantageuse pour les deux parties. C'est-à-dire qu'il était important pour la Lituanie d'être reconnue dès le moment de son indépendance.
Для Ельцина было важно, что Литва, как независимая страна, которой он дает признание независимости, признает Россию как независимую страну до распада Советского Союза.
C'était extrêmement important de l'autre côté pour Yeltsin de reconnaître la Lituanie comme pays indépendant alors que la Lituanie faisait effectivement encore partie de l'Union soviétique, de manière à ce que par cette même reconnaissance, on reconnaisse également que la Russie était un pays à part entière avant justement l'effondrement de l'URSS.
C'est juste un moment, очень правильно угаданный момент.
C'est un moment qui avait été parfaitement choisi.
Ельцин потом уже совершенно был другой, когда он получил власть в России и опять имперские амбиции и по отношению к Украине, я вспомню Тузлу, например, и по отношению к Литве и остальным странам они появились. Tuzla, да, это остров.
Et après, effectivement, Yeltsin est devenu complètement différent. Lui aussi s'est retrouvé avec des ambitions impériales. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qui s'était passé avec l'île de Tuzla en Ukraine, mais aussi en Lituanie.
Так что Россия не меняется, ее президенты тоже.
La Russie ne change pas, les présidents non plus.
Bonjour, j'ai une question sur le montage. À plusieurs moments dans le film, en fait, c'est très facile d'identifier qui filme. On voit les journalistes, on voit les caméras de télévision, on voit les, il me semble, les citoyens qui possèdent des caméras. Et à plusieurs moments dans le film, on a les mêmes images qui sont montrées successivement, la même scène en temps réel par plusieurs caméras, ce qui, moi, me semble conférer une image très objective de ce qui se passe. Il y a plusieurs points de vue et on n'a pas de doute sur la véracité, d'où vient cette image. Et je le compare par rapport à Babi Yar, que je viens de voir, où là justement il y a une raréfaction de l'image et les images sont travaillées peut-être parfois contre elles, si c'est des images qui viennent de l'armée, etc. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché à faire, de donner la vérité de l'image en multipliant ces points de vue, alors qu'a priori une seule caméra aurait pu suffire ?
Pour Babi Yar, vous voulez dire ?
Non, pour là.
Non, non, pour ici. Est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé, cette multiplicité de points de vue ? Enfin, pourquoi la multiplicité des points de vue ?
Ну, как вы точно заметили, если существует несколько разных камер и разного качества изображения, оно добавляет ощущение подлинности происходящего. Это совершенно справедливо.
Vous avez effectivement bien remarqué, on voit différentes caméras, vous voyez également différentes qualités d'image et le tout donne une réelle véracité.
И если бы у меня была такая возможность, когда я делал фильм «Бабий Яр», я бы тоже точно так же использовал разные камеры. И там есть один эпизод, где есть разные точки зрения в фильме «Бабий Яр». Значит, один эпизод все-таки такой есть, я нашел такой материал.
Et si j'avais pu faire la même chose pour Babi Yar, évidemment, j'aurais pu. D'ailleurs, il y a une séquence où, effectivement, c'est le cas, où j'ai trouvé une même scène avec différents points de vue.
Et мне кажется, этот фильм, конечно, очень длинный, но я не мог его сделать короче. Он был еще длиннее, он был около 6 часов, но это невозможно сделать просто короче. Я сжал настолько, насколько это возможно, потому что, ну, не знаю, уже каждый другой эпизод, который я вынимаю из картины, он, ну, существенно влияет на смысл повествования.
Effectivement, ce film est très long, mais en fait, d'abord, j'ai beaucoup coupé, parce que sinon, au début, j'avais un film qui faisait 6 heures. Je ne pouvais pas couper plus, plus ça aurait été véritablement impossible, parce que chaque séquence coupée aurait eu une influence réelle sur le sens de la narration.
Но мне кажется, что благодаря главному герою, потрясающему, просто удивительный человек, потрясающий рассказчик, и благодаря монтажу, этот фильм все-таки держится, и его можно смотреть.
Et grâce notamment au héros absolument formidable, qui est aussi un formidable conteur, et surtout grâce au montage, je pense que ce film est regardable.
Oui, il est extrêmement regardable. Et moi, je voudrais juste poser une petite question en continuant sur le montage. Ce sont les images en noir et blanc, le passage en noir, les images en noir et blanc, dont je me suis demandé. Parce que, oui, enfin, on va lui demander peut-être. Quelquefois, mais pas toujours. Je crois qu'il y a différentes natures d'images. Et alors voilà, si c'est l'explication, c'est une explication intéressante.
Нет, черно-белые кадры – это пленка вообще-то в основном. Это кинопленка черно-белая.
Non, les images en noir et blanc, justement, c'est de la pellicule cinéma.
Дело в том, что хронику снимали на черно-белую пленку.
Parce que les actualités, en fait, étaient effectivement tournées sur pellicule cinéma.
Donc, c'est bien la télévision.
Есть что-то на видео в конце фильма, есть что-то на видео. Просто переводили видео на ЧБ и сохранилось только в этом формате.
Effectivement, à la fin du film, il y a des images en vidéo qu'on a passées en noir et blanc.
C'était ma question aussi.
Есть что-то, что сохранилось. Дело в том, что когда захватили советские войска, захватили телевидение, они уничтожили часть материала. То есть часть материала вообще не сохранилась.
Et ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque les régiments ont envahi le siège de la télévision, ils ont détruit beaucoup de matériaux. Il y a toute une partie du matériau, des images qui ont disparu.
И что-то осталось от кто-то снимал телевизор, просто телевизор снимал, поставил камеру против телевизора и снимал там съезды, там какие-то эпизоды, которые показывали.
Et certaines choses ont pu être conservées parce qu'il y a des gens qui ont filmé la télé, qui ont filmé le téléviseur et qui filmaient par exemple des images des congrès, certaines séquences qui ont été filmées sur un téléviseur.
J'imagine que ça peut nous emmener trop loin, donc c'est juste peut-être demander une réponse un peu synthétique. Mais c'est quand même vraiment une énigme, c'est-à-dire que comment on trouve les images amateurs ? C'est-à-dire a priori des images qui ne sont pas dans des centres d'archives, qui ne sont pas renseignées, qui ne sont pas... Comment fait-on ?
Ну, дело в том, что Литва маленькая. 2,5 миллиона человек. Это практически деревня. И все друг друга знают.
La Lituanie, vous savez, c'est un tout petit pays, c'est 2,5 millions habitants, c'est quasiment un village, tout le monde se connaît.
И достаточно было просто сарафанное радио.
C'est juste du téléphone arabe.
И все, и все, кто снимал, пошли на чердак и достали свои кассеты.
Et tous ceux qui avaient fait des images sont montés dans leur grenier pour aller chercher les cassettes.
А оказалось, там очень много материала.
Et on a retrouvé comme ça beaucoup, beaucoup de matériaux.
Даже, ну, я делал фильм о путче в 91-м году в Москве, я такого количества материала во всей России не мог найти.
Et même quand moi j'ai fait un film sur 1991, sur le putsch de 1991, j'ai cherché, mais je ne pouvais pas trouver autant d'images dans toute la Russie.
А у литовцев была связь с заграницей. С литовцами в Соединенных Штатах, в Великобритании, во Франции. И они посылали и камеры тоже.
Mais sauf que les Lituaniens avaient beaucoup de liens avec l'étranger, donc ils avaient des liens avec des gens qui étaient aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, et ces gens-là envoyaient aussi des caméras.
Это серьезная культура на самом деле. Когда-то Великое княжество Литовское было от Балтийского моря до Черного и занимало всю эту территорию. Смоленск, Варшава.
C'est une culture que je qualifierais d'extrêmement sérieuse. Vous savez, du temps du Grand-Duché de Lituanie, le territoire s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire, de Smolensk à Varsovie.
Когда-то они освободили от татар город Киев.
Il fut un temps même où ils avaient libéré la ville de Kiev du joug tataro-mongol.
1340 год.
En 1340.
Là, il n'y avait pas.
Et là, il n'y a pas d'image.
Il n'y avait pas de caméscope, là, je crois.
Нет материала, нет.
Malheureusement.
Non, pas d'image.
Oui, redevenons un petit peu sérieux. Sergueï, vous avez tout à l'heure dit que cette année 1991 a importé beaucoup pour vous et comme beaucoup de gens qui vivaient en URSS alors. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de l'importance de cette année 1991 pour vous, peut-être aussi sur votre biographie personnelle, on va dire, votre parcours individuel.
В этом году я набрался храбрости и поехал в ВГИК, поступил и вообще сменил полностью свой род деятельности.
Cette année-là, en fait, je me suis armé de courage et je suis entré au ВГИК, qui est la grande école de cinéma de Moscou, et j'ai complètement changé d'orientation.
Я прекрасно помню Пучка. Я был тогда в Киеве. И я помню Киев в это время. Там не было ничего подобного, что было в Петербурге или в Москве.
Je me souviens parfaitement effectivement du putsch. Il se trouve que j'étais à Kiev à l'époque et que Kiev n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
Все смотрели на Москву и ждали, что там произойдет.
Tous regardaient Moscou et se demandaient ce qui allait arriver.
Мало кто знает, что 24 числа августа, когда Украина провозгласила уже окончательно независимость, там несколько было провозглашений независимости, ну, это советская традиция, но не совсем независимость, почти независимость и окончательная независимость.
Peu de gens savent qu'en fait la véritable indépendance a été déclarée en Ukraine le 24 août de cette année-là, parce qu'il y a toujours, comme en Union soviétique, ça se passe toujours en plusieurs temps. Il y a d'abord un peu d'indépendance, après c'est presque l'indépendance, jusqu'à ce soit la complète indépendance.
Значит, и генеральному... Нет, не генеральному, он кто там был. Секретарь Компартии Украины, вот, Кравчук, первый президент. Ему пришлось собрать... большинство парламента – это представители Компартии, отдельно в зале отдельном заседании в парламенте Украины и объяснять им, почему им выгодно сейчас проголосовать за независимость.
Le secrétaire du parti ukrainien, du parti communiste ukrainien de l'époque, Monsieur Kravchuk, qui a été le premier président, avait réuni les députés qui faisaient partie évidemment du parti communiste. Il les avait réunis dans une salle à part dans le parlement pour leur expliquer pourquoi c'était important de voter pour l'indépendance.
В основном это были директора всяких предприятий, и он им говорил очень просто: «Но послушайте, вы станете сами распоряжаться этой собственностью».
C'était généralement des directeurs d'usines ou d'entreprises. Il leur a dit, écoutez, si vous votez pour l'indépendance, c'est vous-même qui allez gérer justement toute cette propriété-là.
После этого совещания они пошли и проголосовали.
Et donc après cette réunion, ils sont allés voter.
Это 91 год.
C'est 1991.
Советское сознание, страх, непонятно, что будет происходить.
Avec la conscience encore soviétique, la peur, sans qu'on sache exactement ce qui allait se dérouler.
Но я как-то, во-первых, не очень думал, во-вторых, был очень молодым и поверил в то, что что-то может быть, что-то может измениться в нашей жизни, и, наверное, может быть, можно заняться кино.
Mais à l'époque, je réfléchissais moins, j'étais jeune et je me disais qu'effectivement, il y avait peut-être des changements en perspective et que peut-être, effectivement, j'allais m'atteler au cinéma.
Et pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, avant de démarrer ces études de cinéma à la grande école de Moscou, ВГИК?
Я работал в институте кибернетики, закончил математику классическую в Киеве, политехническом институте, и занимался серьезными вещами.
J'avais terminé mes études à l'Institut de cybernétique parce que je faisais des mathématiques classiques à l'Institut polytechnique et je faisais des choses vraiment sérieuses.
Non. Я сейчас как масло на хлеб, размазан по Европе.
Là, vous savez, je suis un peu comme le beurre sur la biscotte. Je me promène sur tout le territoire de l'Europe.
Ну, сейчас я прилетел из Памплоны, потом отсюда лечу в Вильнюс, оттуда там дальше и так далее. Ну, я живу в Европе.
Là, j'arrive de Pamplune, après je repars à Vilnius, j'habite en Europe.
Ну, я уехал просто в 2001 году, я уехал из России, поскольку все понятно стало в тот момент уже, что будет с этой страной. У меня не было сомнений никаких, и я уехал туда, где была возможность дальше продолжать заниматься своим делом.
En fait, en 2001, j'ai quitté la Russie parce qu'il était clair, pour moi en tout cas, c'était véritablement clair de ce qui allait se passer dans ce pays. J'avais absolument aucun doute et donc je suis parti là où je pouvais continuer de faire ce que j'avais à faire.
Voilà qui est clair. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque ? Ce sera la dernière. À vous l'honneur.
Bonsoir. Je voudrais savoir, les séquences, les avez-vous choisies tout seul ?
Les séquences ou les images ?
Les deux. Et les commentaires et...
Но когда я делаю фильм, я, конечно, разбиваю как математик все на блоки, на эпизоды, на описываю каждый из эпизодов с точки зрения идеи, что хотелось бы сказать в этом эпизоде, и выстраиваю структуру, схему. И дальше следую этой схеме и смотрю, насколько это работает или не работает в фильме. Так что да, конечно, я все это выбирал сам.
Vous savez, quand je fais un film, en fait, c'est comme pour les mathématiques, je divise mon film en différents blocs, à l'intérieur des blocs, il y a des séquences, et après, j'essaie de voir si ce que je décris dans chacune des séquences correspond à l'idée que j'avais décidé de mettre dans chaque séquence, donc ça forme tout ça un schéma, et ensuite, j'essaie de suivre le schéma, et au fur et à mesure que j'avance dans le schéma, j'essaie de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas.
Nous avons monté beaucoup plus. L'interview était 15 heures. Из интервью только один час, будет отдельная книга, которая выйдет вот скоро на литовском языке нашего интервью, может быть, оно будет переведено. Она очень интересна, потому что потрясающий рассказчик, и важные темы затрагиваются. Вот. Но все это вместить в картину было невозможно, и мне пришлось отказаться от очень важных тоже эпизодов, но потому что фильм требует своей драматургии.
Et vous savez, en fait, on a monté beaucoup plus de temps que ça, puisque l'interview que j'ai faite avec M. Landsbergis durait 15 heures. Là, ce que vous en voyez, c'est une heure seulement. Mais cette interview a donné lieu à un livre qui va bientôt sortir en Lituanie, en langue lituanienne, qui sera peut-être traduit. Parce qu'effectivement, ce qu'il raconte, c'est un conteur, comme je l'ai dit, formidable, qui aborde des thèmes très importants. Mais il n'était pas possible de tout mettre dans un film. Il a fallu que je renonce à certaines séquences de manière à conserver la dramaturgie.
Ce qui est important, je pense, c'est ce dont повествует film, этой очень сложной ситуации, а вы не представляете, насколько эта сложная ситуация была тогда, удалось благодаря мудрости не только Витаутаса Ландсбергиса, но и других политиков, за ним стояло там много людей, очень умных, мудрых, удалось избежать кровопролития и вывести Литву, все-таки вывести и сделать из Литвы европейскую страну.
Mais ce qui est important et ce que j'ai essayé de montrer dans le film, parce que vous n'imaginez pas la situation particulièrement extrêmement compliquée dans laquelle ils se trouvaient à l'époque, c'est qu'ils ont réussi, grâce à la sagesse de Vytautas Landsbergis, mais pas seulement, il y avait d'autres politiciens derrière lui, des gens particulièrement intelligents et des gens très sages aussi, qui ont réussi à faire en sorte qu'ils ont évité, encore une fois, un bain de sang et à faire de la Lituanie un pays européen.
Маленький пример, чтобы вы понимали сложность момента. 12 марта, после того, как литовский парламент восстановил независимость, это 1990 год, разослали письма во все 145-150 государств, правительствам, президентам, королям, всем. Значит, Литва, демократическая процедура, восстанавливает независимость волей народа. Мы готовы с вами иметь дипломатические отношения как независимая страна.
150, может быть, 160 писем было разослано всем. Сколько получили ответов?
Petit exemple d'ailleurs de la situation particulièrement compliquée. Le 12 mars, une fois que le Parlement a eu décidé de restaurer l'indépendance, le 12 mars de 1991, ils ont envoyé 145-150 lettres à tous les gouvernements, tous les présidents, tous les rois du monde, en disant voilà, la Lituanie, par un processus démocratique, par la volonté du peuple, a décidé de devenir un pays indépendant et nous sommes tout à fait prêts à reprendre des relations diplomatiques directement avec vous. Je dis 150, c'est peut-être même 160 lettres. Est-ce que vous savez combien il a reçu de réponses?
Nul. Nul.
Aucune.
Zéro. И можете себе представить положение президента, председателя парламента, парламентариев, правителей Литвы в этой ситуации, когда вы имеете свидетельство страха, официального страха всех правительств всех стран перед Советским Союзом.
Vous pouvez essayer d'imaginer la situation du président du Parlement, du gouvernement, qui deviennent effectivement les témoins de la peur qu'engendre encore l'Union soviétique.
Et какую нужно иметь выдержку, волю и уверенность в себе для того, чтобы дальше продолжать настаивать на своем.
Vous imaginez la force qu'il faut pour tenir, la volonté qu'il faut, l'assurance en soi de manière à continuer d'aller de l'avant.
И неофициально некоторые страны, как Соединенные Штаты, говорили, ну, пожалуйста, тише, тише, мы вас поддерживаем, но тише.
Et de manière absolument officieuse, comme les États-Unis, par exemple, disaient, non mais chut, chut, plus doucement, on va vous soutenir, mais soyez pas si actif.
Страна, которая поддержала первая.
Le pays qui a soutenu en premier.
Исландия.
L'Islande.
Они сказали, что если Советский Союз не будет покупать у нас лосось, мы проживем.
Ils ont dit en Islande que si l'Union soviétique cesse de nous acheter nos saucissons, on survivra.
Маленькая, свободная, независимая, 200 тысяч человек.
Лосось.
Да. Фиш.
Oui, le saumon, le saumon. Je ne sais pas пourquoi j'ai entendu. Pardon. Non, le saumon. Je suis en train de me dire en plus. Saucisson, ça fonctionne pas.
200 000 человек страна.
Un petit pays, 200 000 habitants, un tout petit pays.
Вот это все, что вы, может быть, хотели знать про нынешнюю политику из опыта прошлого.
C'est peut-être la seule chose que vous avez envie de savoir sur la politique d'aujourd'hui à partir de l'expérience du passé.
У нас сейчас Россия есть вместо Советского Союза и весь остальной мир, который почему-то ее боится.
On a la Russie aujourd'hui à la place de l'Union soviétique et le monde entier qui continue à ne savoir pourquoi d'en avoir peur.
И сейчас Украина выполняет эту роль. Литва тогда.
Et à l'époque c'était la Lituanie qui remplissait ce rôle-ci, aujourd'hui c'est l'Ukraine.
Ну, чуть-чуть помогают.
Mais on les aide un peu.
Хорошо. Merci.
Merci beaucoup.